שיר זה מי השם עליכם תחיו לאורך חיים טובים ושנים נעימים. נוסום דן פרשת ויחי, עזרנו בשם אדוני עושה שמיים וארץ. דן כי לדי איסי ויחי יעקב בארץ מצרים, יעקב אביקו און אג'יפ, דיסטן. אסת פרשה, ספסוק לה, אימדיאטמן על הסוויט דה סלווי כי פרסד. איניה פד אינטרופציון, אונט לה פן דה פרשת ויגש, et le début de Parashat Vayechi, comme si que tout cela ne faisait partie que d'un seul et même paragraphe. Précédemment, il est dit, « Vayeshev Israël Beretz Mitzrayim, Beretz Goshen, Israël, Yaakov, donc, s'est installé en Égypte, dans le pays de Goshen. Les Bnei Israël, voyez, Hazouba, ils s'y sont installés, ils ont acquis des biens. Il faut Vayerboumio, donc ils se sont... Ils ont acquis le pays de Goshen. Ils se sont installés là-bas et ils ont prospéré. Et immédiatement, il est dit que Vayechi, on nous annonce la fin de Yaakov, le décès, la disparition de Yaakov. En général, une paracha, il faut distinguer entre une sidra, donc la sidra de la semaine, c'est-à-dire c'est la coupure de la paracha de la semaine qui est parashat Vayechi, certes, mais il y a dans la Torah 276 parashiot, donc ce sont des paragraphes, qui sont séparés, qui sont qualifiés ou de parashat Setouma. Alors dans le Trumash, il y a un samer entre les paragraphes. Et là, on laisse, c'est-à-dire que la parashat, elle est fermée, mais elle n'est pas totalement fermée, il y a un espace, on laisse de quoi écrire 9 lettres. Et il y a Parasha Petucha, une Parasha ouverte. Donc et là, on va à la ligne, il y a plus qu'un espace de 9 lettres. Ça, ce sont les parachotes entre elles. Mais dans les Sidra, notre manière de couper les parachotes, de lire, notre manière de lire les parachotes, les Sidrotes, nous avons un système qui conclut la Torah, de la lecture de la Torah se fait en un an. D'autres minagim, minag eret Israël, c'est de couper les parachutes de telle sorte de conclure la Torah en 3 ans. Donc il y avait d'autres coupures. Mais quelle que soit la coupure, ici il ne s'agit pas uniquement de la paracha de la semaine qui est fermée, mais il s'agit du sujet qui est fermé, du paragraphe lui-même qui est fermé. C'est-à-dire que il n'y a pas de lien normalement. Nous avons une Kabbalah depuis Ezra Sofer, donc c'est lui qui a institué les paragraphes, qui a défini les paragraphes, qu'il n'y a pas de lien entre le Passouk précédent et celui-ci. Normalement, on aurait dû aller à la ligne où on aurait dû laisser un espace. Et ici, c'est d'un trait. Et quand on lit, on a l'impression que c'est une suite. Et on vient nous indiquer que non, ce n'est pas une suite. Donc il y a une coupure normalement, la coupure qui ne s'est pas faite dans le texte. Et ça indique, nous dit Rashi, lama parasha zustuma, donc pourquoi cette parasha-là est fermée. Or ce terme de parasha peut s'appliquer au paragraphe ou à la sidra, parce que les fiches et Kevin chez Niftar Yaakov, puisque dans cette parasha, Yaakov a disparu. Alors, dès cet instant, puisque nous savons que dans cette paracha, la paracha va traiter de la disparition de Yaakov, donc nous savons déjà que nous allons tomber dans l'exil. Nous allons tomber, nous sommes en exil, nous allons nous rendre compte que nous sommes en exil et que cet exil-là va se transformer en servitude. Donc, c'est cette conscience-là, et tout d'un coup, les Bnei Israël prennent conscience de cela. Et c'est pour cela que leurs yeux, leur horizon s'obscurcit et leur cœur se referme. Parce que de toute façon, en fin de compte, si c'est pas immédiatement, ce sera après, en fin de compte, cette situation-là va amener à la servitude. Autre explication, nous dit Rashi, que plus tard nous verrons que Yaakov Avinu bikesh les galotes et takes. Yaakov Avinu a voulu, en rassemblant ses enfants avant de disparaître, leur annoncer la fin des temps. Leur annoncer que Il y a une solution, il y a une lumière au bout du tunnel, et cela lui a été retiré. Donc, venistam mimeno. Donc, il y a ici deux éléments qui peuvent se compléter. Les deux ne sont pas totalement distincts, ils se rajoutent. Et peut-être s'agit-il en fait de la même notion, de la même idée qui est dite de deux manières différentes. Toutefois, ce qui nous importe, c'est cette idée qui est mentionnée de l'exil. Pourquoi l'exil? Voilà que, au départ, Jacob Avinu ne descend en Égypte que du fait qu'il y a la famine. Donc il y a 2 ans de famine et il en reste 5. Donc il y a Yosef, en se dévoilant à ses frères, les invite à ramener leur père, à ce qu'il accepte de convaincre leur père qu'il accepte de venir s'installer en Égypte. Donc, et là, c'est véritablement le problème qui se pose à nous. Pourquoi Yosef agit-il de la sorte? Et d'ailleurs, nous allons voir que Yaakov hésite et il se rend à Beersheba et là, Kadosh Baruch Hu se dévoile à lui et lui garantit la sortie. Il lui dit, va en Égypte, descends en Égypte, je serai avec toi et je t'en sortirai. Toi et tes enfants. Mais, a priori, Yaakov a déjà pris sa décision. Quand il descend, il est sur le chemin, il va à Beersheba. Et c'est là que Akadosh Baruch Hu se dévoile. Il a déjà pris sa décision. Alors, la question qui se pose, pourquoi Yosef a-t-il invité ou convaincu son père de descendre, le rejoindre en Égypte plus Yaakov et toute sa famille. Donc, c'est-à-dire comme si que le départ de Yaakov Avinu d'Eretz Kenaan vers l'Égypte crée un détachement total de la famille des Avot, de ce qui va devenir Am Israël, des Shvatim, avec la terre d'Israël. C'est comme si ils se sont détachés totalement de la situation dans laquelle ils étaient. Ils y vivaient en Eretz Israël. C'était leur terre. Et ils se détachent totalement. Pourquoi Yosef aurait très bien pu, a priori, aller voir son père et le laisser en Eretz Israël, lui et sa famille, le laisser sur place et subvenir à ses besoins, lui envoyer du ravitaillement de manière régulière. Il aurait pu aller le voir plusieurs reprises. De toute façon, il est mentionné que quand bien même Yaakov est venu s'installer à Goshen, Yosef n'était pas présent tout le temps avec lui. Il est cité qu'il l'a rencontré 3 ou 4 reprises durant 17 ans, et pas plus. Donc, ces 3 ou 4 fois où Yosef va rencontrer son père, va lui rendre visite, il aurait pu très bien le faire en allant en Eretz Israël. Et si on aurait pu penser que Pharaon lui aurait interdit, voilà que Yosef avait un joker, avait un moyen de convaincre Pharaon de le laisser faire. De la même manière qu'il a réussi à convaincre Pharaon d'aller enterrer son père en Eretz Kenaan. Donc, cette raison-là n'est pas, c'est pas, on ne peut pas considérer que Pharaon aurait pu l'en empêcher. Il y a ici une autre dimension qui est le détachement. Il y a une idée ici qui est mentionnée, c'est que Am Israël, ou l'embryon de ce que va devenir, l'embryon qui va devenir Am Israël, ne peut pas se structurer, a priori, n'a pas pu, ne pouvait pas, a priori, se structurer sur la terre d'Israël. Il doit venir de l'extérieur. Alors que, a priori, on aurait pu penser différemment. Voilà que dans la paracha de Vayeshev, il est dit Vayeshev Yaakov Beeretz Megurei Aviv Beeretz Kenaan. Donc Yaakov, après avoir solutionné le problème, s'en est sorti avec Laban, il s'en est sorti avec Esav, il a surmonté la problématique de l'histoire de Dina avec Shrem. Et il arrive en Beeretz Megurei Aviv, il pense s'installer de manière définitive. Mais Yaakov, Beeretz Megurei Aviv, il est dit là-bas. Et les Farshim nous invite à réfléchir à cela. Et Rachid dit, au nom de Chazal, comment les tzadikim, ça leur suffit pas ce qui leur est garanti dans le monde futur, ils veulent s'installer dans la tranquillité et la quiétude dans ce monde. De suite, il a eu le problème de Yosef qui lui a sauté au visage. Mais quelle était l'intention de Yaakov? Pourquoi Yaakov dit, Vayeshev bikesh Yaakov, lishev beshalva, beres megure aviv? Il ne dit pas Beres Megouré. Le thème Megouré, là où ses ancêtres, Abraham et Isaac, ont vécu. Vécu, le mot Megouré, c'est sous-entend qu'ils n'étaient pas propriétaires de la terre, qu'ils étaient étrangers sur cette terre. Et l'idée fondamentale, c'est que Yaakov a voulu être, se considérer vivre en Eretz Israël, s'installer en Israël, mais comme étranger, de telle sorte que s'accomplissent en Eretz Israël l'idée que de la promesse ou du décret qui a été prononcé lors à Avraham Avinu lors de l'alliance de Brit Ben Avitarim, que la descendance sera étrangère sur un pays, dans un pays étranger. Et on peut être étranger en Eretz Israël. C'est dans cette idée-là, Yaakov Avinu voulait que l'exil se passe en Eretz Israël. Et c'est ça qui va être chamboulé, c'est ce projet-là qui va être contrarié par le problème qui va être suscité entre la dispute et le conflit qu'il y a entre Yosef et ses frères. Et c'est donc du fait, et c'est ce que le Talmud dit, la Gemara a dit, jamais un homme ne doit faire de distinction, de différence, de préférence entre ses enfants. Voilà que Yaakov a fait une préférence vis-à-vis de Yosef et ça a causé la descente en Égypte. Nos ancêtres sont descendus en Égypte à cause de cela. Donc on voit bien qu'il y avait une autre option. Et c'était l'idée qui était que voulait réaliser Yaakov. Mais ça ne s'est pas fait. Alors l'idée, on revient, pourquoi Yosef a voulu absolument que son père descende en Égypte? Comme si qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et quand bien même Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui et lui dit, j'irai avec toi, je serai avec toi, descends en Égypte, tu peux descendre et je serai avec toi, il lui garantit qu'il va l'accompagner. Quand bien même, on peut dire que ça, c'est après que l'homme ait choisi. Après que l'homme ait choisi sa destinée, alors Akadosh Baruch Hu lui dit, vas-y, tu peux y aller. Mais il était fort possible qu'il y avait une autre option. Donc la question, elle est pourquoi Yosef? Pratiquement, Yosef a obligé son père à descendre en Égypte. C'est ça l'idée qu'il nous faut comprendre. Et c'est peut-être ça l'idée qu'il est dit Lama parashazu setuma, les filles chez Nistemu, Nistemu en Israël. C'est là l'idée fondamentale qui est mentionnée. C'est-à-dire que quand ils se sont installés en Égypte, Yosef a voulu. L'idée de Yosef était la suivante. C'est-à-dire que tout le processus de l'accusation de Yosef vis-à-vis de ses frères, et tout le processus, il les a poussés à bout de telle sorte qu'ils le reconnaissent en tant que Yosef. Donc nous avons déjà souligné que la complexité de la relation entre Yosef et ses frères, c'est que Yosef est le petit frère, est l'un des petits frères de la famille, mais il est considéré, ou il se considère, ou il est placé au-dessus, comme étant l'excroissance du père, c'est-à-dire c'est comme étant le prolongement du père, donc il n'est pas leur père. Et donc c'est ce refus-là qui a amené ce refus de cette position, de ce rôle de Yosef, qui a amené à sa vente et à la descente en Égypte. Et tout le processus a été déclenché pour cela. Donc Yosef veut réparer, veut amener ses frères à réparation, c'est-à-dire à lui reconnaître son rôle. Et pour ce fait, il ne peut se passer qu'en Égypte quand ils sont sous sa propre domination. C'est pas qu'ils sont loin de lui, ils font leur vie à leur manière, et lui subvient seulement à leurs besoins. Ils doivent être sous sa coupe. Donc Yosef a été placé au sommet de l'Égypte pour permettre aux frères d'accepter ce rôle et de se soumettre à lui pour pouvoir s'épanouir. Et c'est comme ça qu'ils arrivent, qu'ils parviennent à s'épanouir, comme il est dit. Voyez Hazuba, ils étaient à Rezgoshen, voyez Hazuba, ils se sont, ils l'ont saisi, donc ils se sont accaparés, ils ont acquis des biens, ils l'ont saisi, donc ça leur a appartenu, et ils l'ont fait prospérer. Vayir Frou, Vayir Bouméot. Le Midrash dit que Yaakov Avinu, il a vu de son vivant 600 000 de ses descendants installés à Goshen, qui prospéraient, qui étudiaient la Torah. Donc c'est comme si qu'ils se sont installés dans ce pays-là. Et à la mort de Yaakov, donc quand Yaakov disparaît, que se passe-t-il? On sait que Yaakov est sur le point de disparaître. Donc c'est la figure, c'est le flambeau lumineux qui indique le chemin qui disparaît. Et tout d'un coup, on se retrouve seul. Donc les Avot, Yaakov est le troisième des Avot. Quand il disparaît, il y a une coupure, une cassure entre les Shvatim et les Avot. Alors, comment faire le joint, comment faire le lien entre les deux niveaux? Donc, dans la réalisation, les Shvatim sont dans la réalisation du projet qu'ont initié les Avot. Comment ça va se faire? Donc, il faut unir le peuple. Et ça ne pourra se faire que dans l'exil. Donc, l'idée qui est la stima, l'obscurité qui va, la fermeture de l'horizon. La fermeture des cœurs, le fait que Yaakov voulait indiquer la fin et qu'il n'a pas pu le faire. Toute cette notion-là, c'est l'idée par laquelle, comment faire pour faire l'union entre les Shvatim. Et cette union-là ne se fera pas. On remarque d'ailleurs qu'à aucun moment il est dit que les frères ont regretté de l'avoir vendu. Ils ont regretté à plusieurs reprises de l'avoir fait souffrir, de ne pas avoir eu pitié de lui. Mais sur le fond de l'affaire, sur le fond, donc ils ont regretté la forme, mais pas le fond. On ne trouvera pas. C'est d'ailleurs pour cela que le Midrash dit que lors de la destruction du deuxième temple, les dix Chachamim qui ont été martyrisés par les Romains l'ont été parce que Yosef a été vendu par ses frères et qui sont l'accaparat de cette vente. Donc c'est les dix martyrs dont Rabbi Akiva sont venus réparer ou bien apporter l'expiation de la vente de Yosef. C'est-à-dire que les frères, au fond, dans le fond du sujet, ils n'ont pas fait tchouva sur ça. Et d'ailleurs, ils n'ont pas... Il ne concevait même pas qu'il devait faire tchouva à ce sujet. C'est sur le fond. Mais pas sur la forme, ils se sont repentis, mais pas sur le fond. Et la sortie d'Égypte va, en fin de compte, c'est tout le processus de la sortie, de l'exil, la souffrance et la sortie d'Égypte doit amener justement à la réunion, à la réunification des deux, de schisme, à la mort des deux royaumes, le royaume d'Israël, qui est sous la royauté de Yosef, des enfants d'Éphraïm, et le malchoute de Juda. Ces deux points-là, ces deux bâtons, doivent n'en en faire qu'un, doivent se souder en un seul sceptre, comme il est dit dans le prophète, comme nous lisons dans les Haftarot. Et c'est ça l'idée, comment y parvenir? Il n'y a pas d'horizon, on ne voit pas l'horizon, c'est à nous d'agir. Et en fait, ils auraient pu très bien, la question qui se pose ici, c'est qu'à la mort, ou même à la fin des jours, des années de famine, les Bnei Israël auraient pu se lever et rentrer chez eux, prendre toutes leurs affaires et partir. Yaakov lui-même aurait pu le faire, entraîner tout le monde. Et ça ne peut pas se faire. Ça c'est une théorie, mais ça ne peut pas se faire. À partir du moment où nous avons décidé de nous installer et de tracer la voie, alors Akadosh Baruch Hu s'occupe du reste. Donc, ce n'est plus. Les Israélites, en s'installant en Égypte, comme il est dit, va, 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 va Ils s'y sont installés, ils s'y sont trouvés pratiquement chez eux. Là, ils sont plus maîtres de leur destin. Et donc, la Gezira, c'est ça. Ils sont plus maîtres de leur destin. C'est le sens. Et Nistemo, Enevelibam chez l'Israël. Ils sont plus maîtres. Ça ne dépend plus d'eux. Donc, ils ont confié leur destin à Kadosh Baruch Hu. C'est à Kadosh Baruch Hu qui dirige. Alors que précédemment, ils auraient pu le faire. Avant cela, ils auraient pu s'en sortir. Et à cela, même, on peut même ajouter qu'il y a, quand bien même le Rabbeinu Ha'ari dit que pourquoi sont-ils descendus en Égypte? Parce que il fallait récupérer les étincelles de sainteté éparses en Égypte qui sont tombées, les Neshamot Kedoshot, qui ont été causées par la faute d'Adam Harishon, les 130 ans, les 130 ans où Adam Harishon s'est séparé de sa femme. Donc il a eu des pertes et ces étincelles de sainteté se sont répandues en Égypte. Donc il y avait beaucoup de Kedusha à récupérer. Et donc il fallait s'installer en Égypte pour cela. Il est possible, dans les Sfarim, il est dit que ces Neshamot-là, cette Kedusha-là, aurait pu être aspirée par la Kedusha d'Eret Israël et ça venir de... Ces Neshamot-là auraient pu, cette Kedusha-là aurait pu être, si on s'installe en Eretz Israël et qu'on se développe la Kedusha et qu'on y vit comme il faut et qu'on développe la Kedusha qui est développée alors en Israël et agit comme un aimant vers les étincelles qui sont éparses ailleurs et elle les attire. Et ça, on aurait pu réparer, récupérer ces énergies-là de cette manière-là. Mais à partir du moment où on a décidé de s'installer, alors le Nistemo NEM, c'est-à-dire on n'est plus maître du jeu. Comme si qu'on n'est plus, on n'est plus maître de notre destinée. Donc on va subir ici. Et on verra de quelle manière on subit parce que il y a toujours une ouverture. Et l'exil aurait pu se faire d'une autre manière. Et Ratzon, quelqu'un, il fasse que il nous illumine de sa Torah et qui nous permettent de dire des chidushim amitim. La Gdel Torah ou la dira. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.